La REF, la renaissance des entreprises de France à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF les 24, 25 et 26 août en direct de l'hippodrome de Paris-Longchamp.
Salut les amis, merci d'être avec nous. Voilà, c'est bientôt la fin de cette REF, renaissance des entreprises de France. Platé sous le signe d'un temps qui a été relativement clément, on ne va pas s'en plaindre. On est ravis d'avoir passé cette journée avec vous. On va finir ici en beauté avec des invités prestigieux. En tout cas, vous avez beaucoup liké, partagé, commenté, parce que c'est important aussi de savoir ce que vous pensez. Toujours accompagné de notre journaliste reporter Elodie Rabel. Et nous avons voilà, un maître sur le plateau voilà, du journalisme.
Alors oui, sur notre plateau, Jean-Michel Apathy,
bonjour.
Vous vous êtes exprimé il y a quelques instants sur la scène de la REF. Pour qui vote les réseaux sociaux? Si vous le permettez, on va faire un petit état des lieux de la popularité hein, de quelques candidats. J'en ai choisi quatre, vous ne m'en voudrez pas, parce qu'on va dire qu'il y a pléthore de candidats déclarés.
Sans doute beaucoup.
voire plus que d'électeurs.
Et les réseaux sociaux, vous connaissez bien parce que
Moi, je suis actif sur Twitter.
Oui, oui, actif sur Twitter. D'ailleurs, j'ai relevé une volée de bois vert il n'y a pas assez longtemps, dans un échange que vous avez eu avec Éric Nolot, par exemple.
Ah, par exemple.
Sur la fête de l'Assomption.
Oui, oui, c'est ça. Parce qu'il a fait un message, c'est amusant que vous parliez de ça.
Oui.
Il a fait un message.
J'ai trouvé que votre réponse n'était pas si méchante que ça.
Mais comment
bon. J'ai trouvé que votre réponse n'était pas si méchante que ça.
Non, non, mais il a fait un message. Je souhaite bonne fête de l'Assomption à tous les catholiques le jour où la chaîne qu'il emploie, C8, a diffusé un peu à la surprise générale, il faut bien l'avouer, la messe de l'Assomption, ce qui est tout à fait le droit de C8. Et j'ai fait un tweet en disant qu'au fond. Éric Nolot
quand
nous donnait là une leçon comment obtenir une augmentation. Voilà, en disant que son patron est un type formidable et donc il n'a pas tellement aimé. Mais les réseaux sociaux, ça permet d'être coquin.
Oui, voilà. Coquin. Et les réactions qui ont eu assez mitigées et d'autres à votre rencontre qui ont été très violentes quand même.
Oui,
très
vous savez, ça n'a aucune importance.
Oui, vous avez le cul épais, Jean-Michel Apathy.
Elodie. Si on regarde les abonnés, on va prendre Twitter, comme c'est votre réseau social préféré. Emmanuel Macron, 7,2 millions d'abonnés. Jean-Luc Mélenchon, 2,2. Marine Le Pen, 2,6 millions. Et Xavier Bertrand, 200 000 à peine. Bon, on est d'accord, hein, s'abonner ne veut pas dire adhérer, d'autant que les réseaux sociaux s'adressent à des publics différents. Pour Twitter, on a affaire à des catégories socio-professionnelles supérieures, plutôt citadines, connectées. Pour Facebook, on est déjà plus dans une population globale. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que les réseaux sociaux constituent un meilleur outil de mesure de l'opinion que les sondages, Jean-Michel Apathy?
C'est la nouvelle Agora.
Ah non, non. Les sondages, les sondeurs qui peuvent se tromper d'ailleurs, ont une méthodologie que Twitter n'a pas. Les sondeurs essaient de reconstituer, ça n'est pas une garantie d'exactitude encore une fois, mais ils essaient de reconstituer avec 1000 personnes la totalité de la société française. Et à l'intérieur, donc, ils travaillent pour repérer les grandes masses d'opinion. Twitter, c'est totalement aléatoire. Qui est sur Twitter, qui répond, qui crie le plus fort. Vous voyez, donc vraiment, s'il y a un lieu qui n'est pas scientifique, c'est Twitter. Les sondages ont la prétention de l'être. Quelquefois, évidemment, ils ne sont pas à la hauteur de la prétention qui est la leur. Mais quand même, il y a une base plus solide que Twitter.
Les réseaux sociaux constituent néanmoins un outil de communication rapide. Hein. Certains, voire tous les politiques, en sont d'ailleurs fort friands. Et les observateurs de la politique tels que vous ne manquent pas de relever les saillies, les prises de bec virtuelles. Qu'on le veuille ou non, la politique et son storytelling se fait aussi via les réseaux sociaux.
Oui, oui, parce que effectivement, il y a beaucoup de... Une scène qui se passe à un endroit X. Il y a souvent un téléphone portable, il y a souvent quelqu'un qui la filme. Et donc, quand ça se retrouve sur un réseau social comme Twitter, parce que les autres réseaux sociaux sont plus fermés, plus doux, plus calmes. Mais Twitter, c'est un lieu où se produit, oui, l'actualité est là. Donc, évidemment, c'est une... Twitter est tout de suite une caisse de résonance, une vidéo devient virale, une déclaration maladroite. Il y en a une récemment de la candidate écologiste... Sandrine Rousseau, qui a dit quoi, des terroristes pourraient venir d'Afghanistan. Mais c'est une bonne chose, comme ça, s'ils viennent en France, on pourra les surveiller. Ce qui est quand même pas...
C'est gentiment naïf.
Non, oui, c'est pas le truc qu'on pourrait appeler hyper à droite.
Donc, évidemment, ce sont des vidéos qui sont beaucoup, beaucoup vues et beaucoup, beaucoup relayées sur Twitter. Et qui... pèse sur le débat, bien sûr. Avant, c'était un outil qui n'existait pas. Donc, la déclaration de la personnalité en cause avait peut-être moins d'impact, ou elle produisait moins de dégâts sur elle-même, parce qu'on imagine, dans le cas que j'ai cité, que Sandrine Rousseau est un peu meurtrie de se voir moquer, attaquer, critiquer sur le réseau social après une telle déclaration.
Bah, vous venez de le dire, les réseaux sociaux sont une caisse de résonance de l'actualité. Et dans ce contexte de campagne électorale, est-ce qu'on ne peut pas dire quand même que la présidentielle de 2022 se jouera sur le numérique, les réseaux sociaux et les vidéos virales qui y sont diffusées ?
Non, on ne peut pas dire ça. La présidentielle de 2022 se jouera en fonction de la personnalité, des projets, des idées... de la réactivité d'une campagne, de la capacité d'une campagne électorale, c'est-à-dire d'une équipe électorale, à être dans le débat, quelqu'un dit ça, je réagis, les passages à la télévision seront importants, tout ce que la presse écrite produit sera aussi lu, les campagnes d'affichage, les meetings contribueront aussi à une ambiance et à une image globale, et aussi les réseaux sociaux. Mais les réseaux sociaux à leur place. Survaloriser les réseaux sociaux ne me semble pas juste.
C'est pourtant là où se trouvent les jeunes.
Non. Sur Twitter, c'est pas jeune.
Non, pas vraiment sur Twitter.
C'est les réseaux sociaux.
Intergénérationnel. Peut-être que même pas Instagram. Peut-être que TikTok est jeune. Et encore. Mmh. Mais non, je pense que les réseaux sociaux, c'est assez transgénérationnel. Mmh. Ça s'est implanté très vite dans la société. Vous voyez, moi, je suis très actif sur Twitter. Est-ce que vous me qualifieriez, avec toute la gentillesse dont vous êtes capable, de jeune?
En étant très gentil, je dirais que l'âge n'est qu'un chiffre. Mais
vous ne me qualifieriez pas de vieux, parce que ça, je serais tout à fait
meurtri. Je n'oserais pas, jamais.
D'accord, mais jeune, si vous me disiez, ah, vous êtes jeune, je me dirais, elle est gentille, mais je crois qu'elle se moque un peu.
Et vous êtes très bien adapté, finalement.
Ah, bon, oui, parce que, alors là, pour le coup, je trouve que c'est très journalistique. C'est de la réactivité, de l'ironie, du deuxième degré, de la méchanceté, voilà, il y a tout.
Vous ne craignez pas qu'il y ait une réduction, une forme de minimalisme dans l'idée, avec ce côté, j'ai un nombre de caractères définis. Et parfois, j'exprime une idée complexe en trois mots, en quatre mots. Cette religion de cours, du zapping, de la consommation immédiate, de cette dictature de la performance et de l'immédiateté, et ça
religion,
vous gêne pas ?
La religion du cours est plutôt une bonne religion qu'une mauvaise religion. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai travaillé en presse écrite à Libération un temps. On avait, ceux qui connaissent comprendront, pour faire un papier, il fallait faire 5 feuillets pour être publié. Et puis après, je suis passé au Parisien, il fallait faire 1 feuillet et demi. La différence, c'est que quand vous avez un espace très court, si vous avez une info, vous la mettez au début. Parce qu'à Libération, quand on faisait des papiers, on noyait l'information au milieu. Donc c'est efficace aussi d'être court.
Mais je comprends.
C'est efficace et pédagogique. Et quand la presse écrite fait beaucoup, ou a fait beaucoup, je ne sais pas si elle en fait aujourd'hui, de vues lues auprès de leur lectorat, le nombre de lecteurs qui décrochent après 2 paragraphes est très important. Des lecteurs qui vont jusqu'au bout d'un papier, c'est assez rare.
Ça minimalise pas l'expression, l'idée ? Est-ce que ça la rend pas, finalement ? Est-ce qu'une idée, vidée de son sens, ne devient plus une idée ?
L'être humain fonctionne comme ça. Pour capter son attention, il faut une vraie technique. Alors, quand on prend un livre, on a un état d'esprit qui fait qu'on accompagne longtemps celui qui a écrit. Mmh. Dans le journalisme, faire long, il faut vraiment avoir un sujet très intéressant.
De la substance. Je comprends.
Sinon, faire court, c'est une vertu.
Mais il est vrai que nous, en faisant des podcasts, on est sur des formats qui sont relativement courts. Mais ce qui est parfois désolant, ce qui est parfois un peu frustrant, il faut le dire, c'est que parfois, on doit exprimer des idées complexes ou essayer d'étayer avec des arguments et qu'on aimerait un peu plus de développement.
Mais vous pouvez aussi le faire. C'est aussi toute la modernité, alors réseaux sociaux, podcasts, etc., permet aussi, si vous pensez que vous avez un sujet qui le mérite, vous pouvez prendre du temps et mettre tout ça en longueur. Mmh. Et vous pouvez espérer, ça se produit, que des gens vous suivront. Mmh. Mais ça dépend du sujet. Quelquefois, comme on s'écoute parler, c'est ce que je fais moi, on fait un peu trop lent. Et du coup, on perd les gens.
C'est autodérision.
Est-ce que le danger non plus, c'est pas avec les réseaux sociaux, cette immédiateté qui est inhérente à Twitter, à Facebook, etc. C'est que dans le débat d'actualité, dans le débat politique, finalement, c'est la réaction qui prime sur une réelle opinion. rapport à ce qu'il faut aller vite ?
Excellente question.
Oui, mais une opinion, c'est la somme des réactions. Donc c'est très, très compliqué. Moi, je pense que l'apport des réseaux sociaux, il est ailleurs. Je pense que l'apport des réseaux sociaux, c'est que plus rien n'échappe à l'observation.
Je suis d'accord.
Quand vous avez des policiers aux États-Unis qui immobilisent une personne, et le policier en question met son genou sur la gorge de la personne pendant 7 minutes, il y a quelqu'un qui filme. Et c'est un cataclysme mondial. Ça, ce sont les réseaux sociaux. Avant, les réseaux sociaux, la technologie, c'est-à-dire le portable plus le lieu de la diffusion, font que, dans la société aujourd'hui, très peu de choses nous échappent. Quand Jean-Luc Mélenchon va à l'hôtel de ville de Paris pour se faire vacciner début juillet,
oui,
et que quelqu'un
l'insulte
en disant un autographe,
et qu'il insulte,
je veux un autographe, et Jean-Luc Mélenchon s'énerve en disant à au garde du corps qui a dit
casse-lui la gueule.
C'est sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est tout ça qui est
terrible.
Différent. Voyez. Et ça, effectivement,
plus de transparence.
Ça peut devenir, oui, peut-être à l'excès même. Hein. Ça peut devenir, à ce moment-là, un élément d'information.
Oui, mais ça oblige les gens, finalement, quelque part, bridés, quelque part, en quelque sorte.
Ah oui, bien sûr, à se contrôler beaucoup plus.
À se contrôler et à ne pas dire de conneries sur les réseaux sociaux.
À être moins sincère.
Voire même à écrire avec un minimum de fautes d'orthographe.
Bien sûr.
Parce que ça peut aussi qualifier les personnes.
Absolument.
Comme ça, les fautes de syntaxe, d'expression.
Et ça oblige les personnages publics à beaucoup de retenue, à une vigilance constante, donc à moins de spontanéité. Parce que la surveillance est permanente. Je crois que le grand changement des réseaux sociaux, et notamment de Twitter, encore une fois, c'est celui-là. Et puis il y en a un deuxième, c'est que du coup, mais c'est pas très important, des acteurs peuvent communiquer directement. Et on voit que certains utilisent beaucoup. Oui, voilà. Et après, les médias reprennent la communication directe qui a été faite et ça devient une information.
Jean-Michel Apathy, quand on dit par exemple que c'est un peu la logorée, qu'on peut comprendre que les réseaux sociaux, c'est le déversement de ce qu'il y a de pire chez les individus, sans aucun filtre. Effectivement, ce qu'il y avait à l'époque, c'était beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, on n'avait pas cette technologie. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est un signe d'une bonne vitalité démocratique ?
Disons qu'aujourd'hui,
parce qu'il y en a qui le pensent,
est inscrit et visible la grossièreté, la violence, la méchanceté. Mais je pense que c'est quand même très marginal. Et que moi, je vois ça sur Twitter. Celui qui s'exprime violemment de manière ordurière, sans doute a-t-il libéré quelque chose, une tension personnelle, mais ça n'a aucun impact, en fait. Je ne suis pas sûr que le débat, globalement, deviennent plus violents à cause des réseaux sociaux. Je n'en suis pas du tout sûr.
Alors, est-ce que la liberté, finalement, si on devait brider, comme le font d'ailleurs...
Les réseaux sociaux ?
Non, mais comme le font les Chinois, je précise. Hein,
les dictatures contrôlent.
C'est une entrave, ça serait une entrave liberticide à l'expression populaire.
Bien sûr, bien sûr.
Alors, à l'aube...
Mais parce qu'eux veulent préserver leur pouvoir.
Mais oui.
Toute information...
Mais est-ce qu'il n'y a pas une tentation des États d'essayer de contrôler ça ?
Oui, il peut y
la
avoir
loi légiférée déjà. Tout ce qui est menace, raciste, antisémite, des phraséologies qui sont condamnables aujourd'hui, c'est condamné.
C'est condamné,
par les personnes signalées.
C'était déjà condamné avant.
Oui, oui, bien sûr.
Des lois qui interdisent, par exemple, les propos antisémites ou racistes,
oui,
ça a précédé les
mais
réseaux sociaux.
La toile, finalement, a accru la volumétrie, finalement, de toutes les tendances, puisqu'il est très facile chez soi, avec une simple adresse sur IP, de poster ou d'ouvrir des comptes. D'ailleurs, vous savez qu'on achète des comptes Twitter, vous saviez ça, qu'on achète des comptes Twitter des abonnés, vous avez des prix comme ça par 10 milliers européens, nationaux, ça dépend des prix, bien évidemment. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais vous poser une question. Cette campagne présidentielle qui s'annonce, est-ce qu'elle est singulière, Jean-Michel Apathy? Est-ce qu'elle est particulière?
Ah, oui, enfin, chaque campagne est singulière. Après, c'est quand un résultat se produit qu'on voit quelle est sa singularité. On voit que 2002, quand Jean-Marie Le Pen se qualifie au deuxième tour, fait du cru 2002 un cru singulier. Mais par exemple, l'élection qui suit 2007, on annonce très tôt les instituts de sondage et puis ce qu'on sent, un duel entre la gauche et la droite, et c'est un duel entre la gauche et la droite. Et d'ailleurs, Nicolas Sarkozy a été très tôt favori de cette élection. Il a été élu. Il n'y a pas toujours des surprises dans une élection présidentielle. Là, celle-ci, ce qu'on peut noter, c'est que... Enfin, qu'est-ce qu'on peut noter d'ailleurs ? On pense qu'on aura un second tour Le Pen-Macron, mais on peut se retrouver avec quelque chose de très différent. C'est après, une fois que l'élection est passée, qu'on peut caractériser l'élection. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de colère, de frustration, des attentes... qui ont été insatisfaites et qui suscitent une méfiance terrible vis-à-vis des responsables politiques? Est-ce qu'il y aura beaucoup d'abstention ou pas? Est-ce que ça peut forcer les résultats? Voilà, c'est une élection désordonnée, disons, a priori. Peut-être qu'elle va se réguler, on verra bien, hein.
Une dernière question, Jean-Michel Apathy. Vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux, on voit tout. Vous êtes un observateur de la vie politique française. Alors, je vous pose la question, et c'est celle du début. Pour qui votent les réseaux sociaux français?
Pour qui je voterai, moi?
Non, pour qui votent les réseaux sociaux français aujourd'hui?
Pour qui votent les réseaux sociaux? Je crois qu'on ne peut pas répondre à cette question. Les réseaux sociaux, c'est des catégories de gens qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il y a extrême droite, extrême gauche, extrême centre, Macron, anti-Macron, tout le monde est là. Comment ça va se départager?
Celui qui a une relative influence sur les réseaux sociaux, il a un vrai pouvoir d'influence?
C'est aucun.
Donc quelqu'un a un nombre d'abonnés. Voilà, on prend le cas d'Emmanuel Macron qui a 7 millions d'abonnés sur Twitter.
Oh, c'est pas de signe.
C'est pas de nature, cette audience?
Non.
N'est pas de nature à créer une influence, on est d'accord?
Il a 7 millions d'abonnés parce qu'il a une position institutionnelle importante.
Bien sûr.
Mais après, ça ne veut pas dire que sa parole amène un vote. C'est pas vrai. Ni sa parole sur les réseaux sociaux, ni sa parole en général. Et donc, les réseaux sociaux, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger, hein, parmi d'autres, d'une action politique. D'accord. Celui qui ne fera campagne qu'avec les réseaux sociaux, sans doute n'aura-t-il pas beaucoup
de
succès.
Les analystes sur la première campagne de Barack Obama avaient analysé le fait que l'action des réseaux sociaux avait été déterminante dans la victoire de Barack Obama dans son premier mandat.
C'est quand Barack Obama? C'est tôt, c'est 2008.
Oui, 2008. Ouais.
Et les réseaux sociaux avaient beaucoup d'importance déjà. Vous savez, Twitter, ça commence dans ces années-là. Hein. Je sais pas. Mais Twitter, Facebook, ça existait
plutôt
un peu avant.
Non, on était plutôt sur Facebook.
Facebook, oui.
On était plutôt sur Facebook, mais avec une force extérieure. Donc, on voit que la manipulation aussi potentielle des réseaux sociaux peut ne pas échapper à des personnes qui pourraient l'organiser et instiller, etc.
Vous savez, mais il faut garder confiance. La manipulation, elle n'aboutit pas tout le temps.
Gilles Kepel était sur notre plateau, il parlait du djihadisme d'atmosphère. Vous savez, quelque chose qui finalement s'instille par des idées sans forcément être conduit directement. Est-ce qu'on peut penser de la même chose, la politique, et d'idées d'influentes?
Je suis pas sûr.
On peut instiller.
Le djihadisme, le seul vecteur qu'il a, ce sont précisément les réseaux sociaux.
Oui.
Il n'a accès à aucun autre média, le djihadisme, heureusement d'ailleurs.
C'est clair. C'est
clair. Donc, fatalement, quand on regarde le djihadisme, on peut penser que les réseaux sociaux sont importants.
Donc, pour vous, les réseaux sociaux, ça reste une influence parmi d'autres?
Parmi d'autres, oui. Dans une démocratie, absolument. Savoir comment se construit l'opinion publique, c'est une question très difficile.
Tout à fait.
Il est très difficile d'y apporter une réponse. Et il y a un citoyen subit beaucoup d'influences. Il n'y a pas une qui est déterminante par rapport à une autre. Au bout du compte, le bulletin qu'il mettra dans l'urne est conditionné par tellement de choses qu'on aurait tort de se focaliser sur un seul facteur.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Jean-Michel Apathy, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. N'oubliez pas, podcast, téléchargeable, commentez, likez, toujours avec beaucoup de bienveillance. Belle journée à vous.
Bonne journée.
La REF, la renaissance des entreprises de France, à l'air libre. Un événement organisé par le MEDEF, à réécouter et télécharger sur le site et l'application radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming. We'll be right back.